Radio Campus, il est 6h.
À Montbernanchon, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, Géotopia est une maison de la nature créée par la communauté d'agglomération Béthune-Brouet-Artois-Lys-Romane. Son but, sensibiliser le public et notamment les enfants à la préservation de la nature. Cela se fait notamment par le biais d'ateliers, de temps forts durant les vacances scolaires. Juliette Rogery, animatrice nature, nous en dit plus sur les différents événements pour ses vacances d'été et sur ce qu'il y a à découvrir à la maison de la nature à Montbernanchon.
Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on propose différents ateliers. Donc déjà, on propose un programme différent à chaque saison avec des ateliers nature pour découvrir pas mal de thématiques différentes en fonction de la saison. Ensuite, sur le site, on a un jardin avec différentes parcelles thématiques où on peut venir visiter librement et gratuitement sur les horaires d'ouverture. On a des mares aussi où on peut observer en ce moment les petites grenouilles et toute la faune de la mare. Et on a aussi un cabinet des curiosités où on ramasse un petit peu toutes les choses qu'on trouve dans la nature et qu'on peut observer plus tard. Une ruche pédagogique et on propose aussi des soirées observation du ciel avec le club d'astronomie.
Alors nous, on va surtout évoquer ce qui va se passer pendant ces vacances d'été. On a par exemple un atelier sur le monde des coccinelles, dites-nous tout.
Oui, alors donc là, ça va être la bonne saison là pour observer toutes les petites bêtes dehors. Donc on va avoir pas mal d'insectes et notamment des coccinelles. Donc là, l'objectif, ça va être de découvrir les coccinelles du jardin. Donc c'est vrai que dans le jardin de Géotopia, on peut voir pas mal d'espèces différentes. Et on a la chance aussi d'observer la coccinelle, mais tout au long de son cycle de vie. Donc on peut trouver des œufs, on peut trouver ses larves et ensuite on voit même les transformations, les nymphes en train de se transformer en coccinelles adultes. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à découvrir parce que ça se passe finalement dans tous les jardins autour de nous. C'est quelque chose d'assez commun mais qui n'est pas très connu.
Et puis on va aussi donc découvrir cette fameuse ruche pédagogique. Pourquoi elle est pédagogique ?
Alors c'est une ruche pédagogique puisque c'est un peu, enfin quand même bien différent d'une ruche standard. C'est une ruche où on va pouvoir ouvrir des petites trappes tout autour du corps de la ruche. Et il va y avoir une partie vitrée, donc finalement on va pouvoir voir l'intérieur de la ruche. On va pouvoir voir les abeilles domestiques en train de travailler, de récolter le nectar, de le stocker. Et donc pour l'évacuation, l'endroit où elles vont repartir, ça va être sous forme de cheminée finalement. Donc les abeilles vont pouvoir repartir pour aller butiner tranquillement et elles partiront en hauteur. Elles ne seront pas à la hauteur des visiteurs. Donc c'est quand même plus sécurisé qu'une ruche standard.
Et vous faites votre propre miel ?
Alors on fait appel à un prestataire qui récolte le miel et ensuite voilà, on a un petit stock de miel qu'on peut faire déguster pendant les animations.
Comme souvent pendant les vacances, vous proposez un rallye nature cet été.
Oui, tout à fait. Donc là, on va proposer un rallye nature. Donc ça sera l'occasion, une fois de plus, d'être dans le jardin. Parce qu'on essaie vraiment, pour l'été, d'être un maximum à l'extérieur, de profiter du jardin. Et puis on va pouvoir découvrir pas mal de thématiques différentes. Et puis découvrir la nature sous différents aspects, avec une approche assez ludique et à la fois scientifique. Donc les enfants vont pouvoir aller dans le jardin, chercher à chaque étape pour chercher, récolter les réponses, et puis à chaque fois revenir auprès de l'animateur pour avoir des compléments d'informations. Et puis s'il y a des manipulations ou des observations à faire, par exemple avec la loupe binoculaire, pour comprendre davantage.
Et puis parmi les autres idées sorties pour ces vacances d'été, il y a les mystères des épinoches disparues. Déjà, c'est quoi des épinoches ?
Alors l'épinoche, c'est un petit poisson qu'on trouve ici dans la zone humide. Donc c'est un petit poisson qui va avoir 2 à 3 petites épines sur le dos. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et donc l'objectif, ça va être de partir en balade dans la zone humide juste à côté de Géotopia. Donc ça va faire une petite marche. Et puis le but, ça va être de mener l'enquête pour trouver où sont passées ces épinoches et de relever un petit peu le mystère et de comprendre qui a bien pu les faire disparaître.
On ne va pas en dire plus, si j'ai bien compris. Non. Un peu de mystère.
C'est ça.
Parmi les temps forts pour cet été, vous avez aussi l'observation des papillons de jour. Ça se fait avec le département du Pas-de-Calais.
C'est ça. Donc, dans le cadre de la saison des pollinisateurs, on va proposer des animations où on va parler du papillon de jour. Donc, il va y avoir pas mal de papillons à observer dans le jardin. Encore une fois, on a des belles prairies fleuries. Donc, on a de quoi faire pour les papillons. Donc, l'objectif, ça va être d'apprendre à reconnaître les papillons communs, de comprendre leur cycle de vie. Donc, pareil, si on a la chance de trouver des chenilles, là, notamment, c'est vrai qu'en ce moment, on voit des chenilles de pan du jour, par exemple. Et donc, ces chenilles-là, elles vont venir et elles seront sur les orties. Donc, d'où l'importance de garder un peu d'ortie dans son jardin, même si ce n'est pas une plante qu'on adore habituellement. C'est toujours utile pour la nature.
Et puis, pour terminer, au mois d'août, il y a la nuit de la chauve-souris. Donc là, le but, c'est je suppose, de réaliser des sorties pour les observer et puis peut-être un petit peu s'enlever certains clichés de la tête parce qu'on en a souvent peur des chauves-souris.
Ben, c'est ça. Donc l'objectif, on va pouvoir partir en balade, donc ça sera des sorties plutôt nocturnes. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, faut un petit peu casser ces idées reçues, puisque finalement les chauves-souris elles sont très très importantes dans la nature. Elles vont quand même nous débarrasser de pas mal de moustiques et autres insectes volants qui nous embêtent pas mal l'été. Et elles vont vraiment pas du tout avoir d'impact négatif sur les humains quelconque.
Toutes ces idées sorties qu'on a évoquées sont pour les enfants à partir de quel âge la plupart du temps? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut réserver?
Alors, donc les ateliers sont proposés à destination des enfants donc à partir de 6 ans et accompagnés d'un adulte. Donc, elles durent environ 1h30 et donc c'est sur inscription. Donc, soit par mail ou soit par téléphone. On peut retrouver le programme soit sur notre compte Facebook ou soit sur le site internet de la Cabalère.
Donc la communauté de communes, oui.
Voilà. Et en termes de tarifs, on sera à 3 € par personne. Et à partir de 4 personnes, on passe sur un tarif famille qui est plus avantageux, donc à 10 €. Et puis au-delà de 4 personnes, on reste à un tarif famille de 10 €.
Et puis on le rappelle, tout le long de l'année, on peut donc découvrir la Maison de la Nature qui est ouverte quasiment toute l'année.
Voilà, donc nous on est ouvert de février à novembre, donc le jardin est ouvert et puis vous pouvez venir visiter gratuitement, avoir accès aux différentes parcelles, venir observer, voir la ruche, le cabinet des curiosités, les petites mares. Et donc il y a juste une période où on sera fermé entre décembre et janvier pour organiser toute la programmation et les activités à venir pour l'année, pour mieux se préparer.
Pour en savoir plus sur les ateliers, les idées sorties, les temps forts proposés par la Maison de la Nature, Géotopia, à Mont-Bernanchon, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, rendez-vous directement sur la page Facebook Géotopia. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche.
Mais t'es con.
Écoute Radio Campus sur 106,6.
Oh, pour con.
Le mardi soir à Coubertin et aussi le dimanche matin. Avec les gamins de mon âge, nous nous entraînons à la nage. Sous la grande échelle du plongeoir, il y a ceux qui préfèrent le soir. En échauffement sur les gradins, ceux qui préfèrent le matin. Et puis il y a moi dans un coin, moi qui préfère attends de loin que l'on enroule enfin les lignes et qu'arrive enfin Caroline. Et puis il y a moi au vestiaire, moi qui chuchote des heures entières ce que je préfère la piscine. C'est le vestiaire de Caroline. Le mardi soir à Coubertin et aussi le dimanche matin. Avec ce crétin de Lepage, nous nous entraînons à la nage. Lunettes et maillots de bain, speedo, il y a ceux qui rêvent des JO. Serviettes et bonnets, arena, ceux qui vont au championnat. Et puis il y a moi dans mon coin, moi qui ne rêve pas bien loin. Champion d'une seule discipline, le 4 fois 100 mètres, Caroline. Et puis il y a moi au vestiaire, moi qui espère des heures entières. Le vestiaire de Caroline. Un mardi soir à Coubertin, je vous présente Monsieur Martin. Il remplace Monsieur Lepage. Nous nous remettons à la nage. Des crachats descendent du plafond, c'est le vestiaire des garçons. Des odeurs de féminité, c'est le vestiaire d'à côté. C'est là qu'elle se douche dans les coins, lorsque tous les autres sont loin. Sur tous les murs, je la dessine, née sous la tour. Caroline. Elle se douche tout entière. Je l'observe depuis le water. La nuit je rêve que je shampoie les longs cheveux de ma championne. Le mardi soir à Coubertin et aussi le dimanche matin. Monsieur Martin se met en nage pour nous initier à la nage. Dans les vapeurs, lorsque s'en vont de crocs les ébrasses, papillons. Viennent les grâces au nez pincé des vacheuses synchronisées. Mais moi je reste au petit coin, à compter les longueurs de loin. Que font les mains de Caroline sur son bassin de mandoline. Mais moi je reste sans rien faire d'autre que ma petite affaire. Caroline, un dimanche matin. Caroline, un dimanche matin. Caroline, un dimanche matin. Caroline, un dimanche matin. Caroline et Monsieur Martin. We'll be right back.
is making life easy by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleep.
Why are we sleeping? 2023 et 2024 ont été des années marquées par des précipitations abondantes sur les Hauts-de-France, provoquant des inondations records, notamment dans le Pas-de-Calais. Début 2025, ce même département est en alerte sécheresse agricole. Symptôme météorologique de l'évolution climatique aux conséquences amplifiées par les modifications paysagères. Gabriel Bertin est maire de la commune de Rivière, dans l'Arrajois. Sa commune, d'un millier d'habitants, est traversée par un cours d'eau, le Crinchon. Il dénonce la disparition des prairies, l'intensification des cultures agricoles qui mènent à l'appauvrissement des sols et à leur imperméabilisation, renforçant le risque d'inondation. Gabriel Bertin.
Et la problématique de l'agriculture et des agriculteurs, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et finalement, nous, à Rivière, par exemple, on a un grand territoire, on a 1200 hectares autour du village, et on a de plus en plus des agriculteurs qui viennent de très loin cultiver. On a de moins en moins d'agriculteurs du pays, du village.
Hein, c'est quoi de très loin cultivent.
Ben de très loin, ça fait 40 km. Voilà, et après, voilà, mais c'est la tendance générale. Hein, et finalement, les petites fermes qui s'arrêtent, on voit bien, sont reprises à prix d'or hein, par des plus grosses structures agricoles hein, qui là, n'hésitent pas à faire des kilomètres hein, pour, avec leurs gros engins pour venir cultiver.
Ici, cultiver sur autre chose que ce qui était fait avant.
Alors l'évolution qui est constatée, mais pas que autour d'une autre commune, hein, c'est quelque chose qui est constaté dans les Hauts-de-France. Hein. On a des grandes cultures, on a essentiellement de la grande culture, hein, plutôt intensive, hein, voilà, plutôt qui utilise quand même pas mal d'intrants, hein, en engrais, etc. Et toute cette démarche cumulée d'année en année, effectivement, a appauvri la capacité du sol à être résilient, hein, donc, et même à s'auto-fertiliser, hein, voilà, du fait de la disparition du monde vivant, on voit quand même une aggravation du fait de l'arrivée de façon plus massive de des types de cultures, comme la pomme de terre, hein, plutôt pour destinée à l'industrie. Ça, c'est une grande inquiétude pour les Hauts-de-France. On le voit déjà autour de nos villages. On le voit également dans la Vénois, parce que là, la Vénois, avec le bocage, qui est une pépite aussi nature à préserver, mais qui est déjà impactée par cette pression de l'arrivée de ce type de culture. On a des grosses industries qui se sont implantées dans la région et qui ont demandé très vite plus de 50 000 hectares de pommes de terre dans les Hauts-de-France, hein, à passer une ancienne culture à ce type de culture, destinée plutôt vers des marchés mondiaux, hein, et non pas vers la nourriture pour nous, pour la France. Hein. Donc ça, c'est très inquiétant. Et surtout, moi, très concrètement, autour du village, pour revenir à notre village, c'est la disparition progressive des prairies autour de notre village, mais de tous les villages de notre région. Et ça disparaît à grande vitesse. C'est impact sur le paysage, impact sur la biodiversité, la disparition des prairies, du bocage autour de nos campagnes. On est moins protégé des coulées de boue et des risques d'inondation. Enfin bref, il y a tout un tas de... Et effectivement, une prairie, ça c'est un bel exemple, hein, c'est une capacité d'éponge remarquable, hein, et une capacité de filtration de l'eau et d'alimentation des nymphes phréatiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des coulées de boue et des inondations dont on parle, mais une des causes majeures de ces problématiques coulées de boue et inondations, là pour les cas extrêmes qu'on a eu dans le Pas-de-Calais, la cause majeure vient de la perte de la capacité du sol dans les champs cultivés de façon intensive à capter l'eau. Donc l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, avait confirmé depuis quand même pas mal d'années un sol sans vie. Bon, on prend des lombrics, hein, bien sûr, parce que pour que tout le monde comprenne, mais il n'y a pas que les lombrics, évidemment, dans un sol qui vit normalement, un sol qui n'a plus ce type, par exemple, les lombrics, a perdu 90% de sa capacité à absorber l'eau. Donc vous imaginez, d'une époque, à un moment donné, un sol vivant, il capte 100 litres, aujourd'hui, il ne capte plus que 10 litres. Voilà. Donc ce qui veut dire que les fameux 90 litres qui restent sur les 100 litres, ça va où ? Effectivement, ça va prendre de la terre, du limon, et ça va l'entraîner très loin, dans les cours d'eau, dans les vallons, et ça va à la mer. Et d'où, bien sûr, les inondations du Pas-de-Calais, et même des problèmes d'évacuation à la mer qui se posent, évidemment, parce qu'il y a tellement d'eau qui arrive dans les basses vallées.
Vous avez des contacts avec la Chambre d'agriculture ?
Moi, je fais partie de la commission locale de l'eau en tant qu'élu, comme je suis motivé pour tous ces... J'ai travaillé sur le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin de la Scarpe, hein, voilà, amont, quand on dit la commission, enfin, le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin versant Scarpe amont. dans lequel il y a notre cours d'eau, le Crachot, hein, qui est un petit affluent. Et puis, moi, je fais partie aussi du comité de pilotage du plan alimentaire territorial. Vous en avez ici, je pense, dans chacun des territoires, dans les collectivités. Donc, on est en contact avec des gens, des membres de la Chambre d'agriculture. Et à chaque fois que la Chambre d'agriculture organise des rencontres sur le terrain pour parler de la problématique du sol, etc., je vais voir un peu. Voilà. Donc, il y a des superbes choses qui sont mises en avant, effectivement, des beaux exemples. Par contre, ce qui est dit ou les beaux exemples qui sont montrés, on les retrouve pas de façon, je dirais, dans la culture en général. Donc il y a une prise de conscience, je pense, forte du côté du monde agricole. Par contre, à la mise en pratique, le changement de cap, d'orientation, en tout cas, on ne le voit pas. On voit plutôt des choses qui vont dans le sens contraire. À l'arrivée de la pomme de terre industrielle, pour nourrir, l'usine Clairemout près de Dunkerque, qui va plutôt nourrir 150 pays en frites surgelées, par exemple, des produits. C'est de la malbouffe. Hein. Donc, en fait, on fait le Mercosur à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait de la malbouffe qu'on envoie dans le monde entier, et alors que les gens dans ces 150 pays, par exemple, si je prends le cas de Clairemout, se nourrissent avec leurs produits de leur territoire. Et donc, ils vont voir débarquer pour faire du business. Hein. Mmh. Évidemment, ça fait marcher du business. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, en tant qu'élu, j'interpelle la collectivité en disant « Dites-moi comment je peux faire, moi, en tant que maire, je n'ai aucun moyen de préserver mes prairies. Elles sont pourtant, au niveau du plan local d'urbanisme de ma commune, indiquées en prairies à préserver. Puis elles vont être détruites. Et par un monde avec lequel on a quand même... On n'a pas d'interconnexion, de discussion facile. Et moi, je suis un défenseur à fond... On est en train de retravailler les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On devrait faire des PLUA, c'est-à-dire plans locaux d'urbanisme et agricole. C'est-à-dire travailler vraiment la main dans la main. Hein, parce que l'agriculture fait de l'aménagement du territoire, tout comme l'urbanisme, hein, tout comme les élus, etc. Mais quand on détruit une prairie, que moi je ne veux pas détruire pour y mettre des maisons, mais qui va être détruite quand même pour faire un champ de pommes de terre, de céréales, de betteraves, etc. Parce que c'est beaucoup plus rentable, et je comprends, hein, y a moins d'élevage, etc. Et malgré tout, c'est une destruction. Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est surtout, il faut arrêter de faire ça. Quoi. Je pense qu'on doit vraiment travailler beaucoup mieux ensemble. Mais par contre, il faut, à mon avis, l'imposer vis-à-vis avec les lois.
Gabriel Bertin, maire de Rivière, commune du Pas-de-Calais, dans l'Arrajois. Alors, une autre agriculture est-elle possible pour préserver la ressource en eau et maintenir les sols en bonne santé? Michel Delisle est agriculteur dans le Douaisis. Sur ses 85 hectares, entièrement cultivés en bio, il produit des lentilles, des pois chiches, des haricots, des céréales et même des pommes de terre. Michel Delisle.
Il y a des moments où on vit des moments pas simples, surtout en ce moment. J'avoue que la politique actuelle, le marché, faut le dire aussi, fait qu'il y a des moments où on a envie de baisser les bras et de se dire « bon, pourquoi on se bat ?» Et ça peut se comprendre. Vraiment, c'est énergivore dans le sens émotionnel.
Aujourd'hui, on peut se passer de l'irrigation et attendre ce que donne le ciel en pluie.
Alors, une année comme l'année dernière, oui, largement. Il n'y a pas de souci, j'avais même trop de haricots l'année dernière, voilà, pour information. Cette année, je ne sais pas, j'espère toujours. Là, je fais du haricot vert en frais, par exemple, où on récolte toutes les semaines, on sème toutes les semaines, on récolte toutes les semaines. J'espère ne pas avoir irrigué. Jusque-là, le sol, j'ai de la fraîcheur en profondeur, j'ai travaillé mon sol, j'ai roulé, j'ai fait tout pour conserver la fraîcheur au maximum. Je croise les doigts, j'ai pas envie de monter les tuyaux, je les ai. Mais contrairement à beaucoup de mes voisins, j'ai l'irrigation chez moi, mais c'est une assurance récolte pour moi. C'est pas parce que j'ai la machine dans ma cour que j'ai envie de l'utiliser. Une fois, je m'en souviendrai toujours, j'étais en train de monter l'irrigation, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et comme tous les jeunes de notre époque, on fait une petite photo, on met sur Facebook, fait chier, il faut monter l'irrigation. Un voisin qui a un petit 300 hectares... me met un petit message, si ton métier te plaît pas, t'as qu'à changer. C'était pas le métier qui me plaît pas, c'était juste que ça me faisait chier de sortir l'enrouleur, que le temps ne me permettait pas de faire autrement, et que par obligation, je mettais l'enrouleur.
Oui. Comment vous gérez cette équation entre ce qui est nécessaire, ce qui est possible, ce qui est raisonnable, et ce qui deviendrait finalement peut-être superflu?
Sur ma ferme, moi personnellement, je regarde la plante, je regarde le sol. Est-ce que la plante est visiblement en manque. S'il y a des signes avant-coureurs qui disent voilà, la planque est en manque et c'est réellement un stress hydrique, c'est-à-dire qu'on commence à voir des petits bouts de feuilles qui se dessèchent, parce que déjà se dessèchent, c'est déjà un signe bien avant-coureur, mais qui commencent à changer un petit peu de couleur, qui sont là, il faut y aller, là, il faut qu'on y aille. Voilà. Sur la pomme de terre, sur les 5 dernières années, je crois que j'ai irrigué une fois un hectare de pommes de terre. Voilà. Haricots verts, c'est un peu plus spécifique. Sur les 5 dernières années, on a irrigué 3 fois. Voilà. Et 3 fois, 3 tours d'eau à 10 mm. Parce que j'ai peut-être aussi la... pas l'envie d'aller irriguer de la pomme de terre par choix aussi. Hein. C'est, voilà, j'ai pas forcément envie de ça. Après, je suis déjà en bio, donc mon rendement va être un chouïa moindre que le conventionnel. Je fais aussi de la pomme de terre de consommation, pas de la pomme de terre d'industrie. Donc on est aussi sur des variétés qui ne sont pas les plus productives déjà dès le départ. On part déjà avec un petit peu d'handicap là-dessus. Mais malgré tout, à même variété... on va dire même principe de fonctionnement, à la différence qu'il y en a un qui va irriguer, l'autre qui va pas irriguer, allez, peut-être que celui qui va irriguer va faire 10% de plus, quoi. Voilà. Sur mon secteur là, je pense à une variété où j'ai un voisin qui irrigue cette variété là, il fait pas forcément beaucoup plus que moi, sachant qu'il est en conventionnel en plus. Il y a une dizaine de pourcents, ouais, c'est ça.
Dernière question sous forme de boutade, mais qui n'en est pas une finalement, totalement. Ce qui va demain peut-être changer les pratiques agricoles, c'est que McDo commence à faire un menu lentilles pois chiches pour que ça fonctionne.
Oui, le steak lentilles pois chiches avec une salade verte bio à McDo, bah oui, ça va faire changer les pratiques. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, si on veut des changements de pratiques, c'est malheureusement les industriels qui ont la moitié de la clé, puisque la restauration hors domicile aujourd'hui, je ne sais plus c'est combien de pourcents, mais ça dépasse les 20%, je crois. La restauration hors domicile, c'est-à-dire, c'est pas forcément manger à la cantine pour ses gamins. Hein. Restauration hors domicile, c'est aller se faire plaisir un soir au restaurant, aller s'arrêter, prendre un sandwich sur la route, ça s'appelle de la restauration hors domicile. Voilà, on est à, je crois, plus de 20% aujourd'hui en France. Et rien que ça, vous allez dans un restaurant, moi qui suis producteur bio, représentant bio et tout le tralala, j'essaie de faire attention. Quand je vais dans un resto, bon, je suis sur l'autoroute, je m'arrête sur le resto de l'autoroute, bon, bah, je prends ce qu'il y a. Mais tiens, c'est bizarre, ah là, il n'y a pas de bio du tout. Ah là, celui-là, il y a un petit truc bio. Ah bon, c'est le vin. Ok, d'accord. Là c'est la ligne 20, ça c'est le plus simple. Hein. Voilà. Ah tiens, lui il a fait des lentilles bio ou des pâtes bio parce que. Enfin, voilà. Voilà, c'est insignifiant aujourd'hui, quoi. Et la problématique c'est d'amener les gens vers ça. Et ça c'est très compliqué et il n'y a qu'un seul moyen, c'est leur communication.
Michel Delisle, agriculteur bio de la ferme des Blancs Moutons dans le Douaisis. Agriculture entre sécheresse et inondation, un sujet de Hervé Dujardin pour Radioscape Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus. On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillé, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Puisqu'on va tu détruire. Pourquoi se marier puisqu'on va
choses qui sont faites pour nous faire chier. Il y a tellement de choses qui sont faites pour nous faire chier. Il y a tellement de choses qui servent à rien.
Service, autant qu'un je suis parti. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gombée d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, belle et charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux.
Ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkiki, ma ton. Ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkiki, ma ton. Ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkiki, ma ton.
De tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. Je suis gombée d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Y en a d'autres qui me font les douze yeux, mais c'est elle que j'aime mieux. Très gentille, c'est la fille d'un mandarin très fameux. C'est pour ça que sur sa poitrine, elle a de petites mandarines. Peu gourmande, elle me demande quand nous mangeons tous les deux. Qu'une banane, c'est peu coûteux, moi je lui en donne autant qu'elle veut. Je suis gombée d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. La montagne, ma petite reine, était venue m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis dans un doux baiser: ne pleure pas si je te quitte, toi mon nana, mon anamite. Tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. T'étais ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Dans mon cœur, je garderai toujours le souvenir de notre amour. Dans mon cœur, je garderai toujours le souvenir de notre amour.
Emmaüs Connect est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, créée en 2013. Qui vise à lutter contre l'exclusion numérique des personnes en situation de précarité sociale. Elle intervient dans la région des Hauts-de-France. Emmaüs Connect Roubaix a organisé une journée porte ouverte destinée à toute personne désirant se former au numérique. Rencontre avec Juliette, responsable de l'espace solidarité numérique de Roubaix.
L'association Emmaüs Connect, on intervient sur trois missions. On équipe, on accompagne et on connecte les publics en situation de précarité qui ont besoin d'être accompagnés sur justement le numérique.
Vous faites ça avec des ateliers, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors la partie accompagnement, on fait des ateliers, on est ouvert toute la semaine sur rendez-vous pour accompagner sur le numérique. C'est les bénévoles qui accompagnent les publics sur leurs questions du numérique, que ce soit liées à l'ordinateur ou au smartphone. On a aussi des ateliers thématiques où là, ça sera une thématique particulière sur le numérique qui ont lieu à intervalles assez réguliers sur les semaines. Par exemple, découvrir Doctolib, protéger ses données personnelles, tout ce genre de sujets.
Quelle est la typologie du public que vous accueillez ?
C'est très très large. Alors pour l'accompagnement, c'est très large, on touche tout public. Ça va être des retraités, ça va être des jeunes, ça va être des personnes en recherche d'emploi, ça va être aussi des personnes un peu coup de pouce où elles vont venir vraiment une fois pour être accompagnées sur un sujet, et des gens qui viennent un peu plus régulièrement pour vraiment apprendre le numérique.
Quels sont les principaux freins que vous avez constatés ?
Alors les freins, ça va être des freins financiers, hein, parce que pour toute la partie accès et vente de matériel, les personnes qui viennent chez nous, c'est des personnes qui ont besoin de s'équiper d'un ordinateur ou d'un smartphone, mais aujourd'hui forcément s'équiper, ça revient cher, donc il y a les freins financiers, et il y a aussi les freins, tout ce qui est lié à la thématique du numérique, hein, l'apprentissage du clavier, de la souris, etc. Quand on ne connaît pas et qu'on n'a jamais utilisé un outil informatique, c'est vrai que des fois il y a un peu une forme de peur, et on est là avec les bénévoles et l'équipe salariée pour justement débloquer tout ça et pouvoir avancer et apprendre tous ensemble.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a ouvert nos portes sur l'espace de Roubaix. C'est ouvert à tout le monde, aux partenaires, aux habitants, aux curieux qui passent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. On brasse assez large, hein. Le but c'est de présenter aussi le bénévolat qu'on fait chez Emmaüs Connect parce qu'on fonctionne grâce au bénévolat. Mine de rien, c'est quand même une grosse équipe qui est là toutes les semaines pour faire tourner l'espace, mais aussi de faire découvrir au public, notamment aux habitants du quartier, ce qu'on peut proposer et qu'ils n'hésitent pas du coup à venir franchir la porte pour qu'on puisse les accompagner sur les différentes thématiques.
Est-ce que vous êtes présent dans les différentes villes de la région des Hauts-de-France ?
Alors, sur la région des Hauts-de-France, on est présent sur Roubaix et sur Lille. On a deux espaces, comme celui de Roubaix qui existe actuellement. On est aussi présent sur le Pas-de-Calais et sur d'autres départements, mais il n'y a pas d'espace dédié, c'est une équipe assez mobile. Et puis voilà, sur les Hauts-de-France, c'est comme ça qu'on est présent.
Joël et Touraya, tous deux adhérents à Emmaüs Connect. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous venez à Emmaüs Connect ?
Ben, pour apprendre l'informatique, parce que maintenant on est obligé, mais c'est bien. Il faut venir, celui qui a la possibilité de venir, ils peuvent venir. Il y a pas mal de choses à faire.
Est-ce que vous avez participé à des ateliers ?
Pour l'instant, 2-3.
Quelles sont les principales difficultés que vous aviez ?
Il y a pas mal de choses. Hein. Et puis, moi, j'ai pas Internet, donc pour l'instant...
Vous avez un problème d'accéder à l'outil informatique ?
Oui. Bon, on me dit ça aujourd'hui, demain, on peut me le répéter. Mais bon, ça commence à... Il y a des choses qui commencent à rentrer. Quoi. C'est vrai que... Mais celui qui a la possibilité de venir, venez parce que c'est quand même intéressant.
Aujourd'hui, pour les démarches administratives, on a besoin de l'informatique.
Oui, c'est essentiel. Mais moi, c'est ma fille qui le fait. Donc,
Qu'est-ce que vous pensez du travail qui est fait par l'association ?
Très bien. On connaît les anciens, c'est bien. Bon, les nouveaux, on les connaît moins, mais les anciens... Bon, on va dire, au bout de 5-6 ans, on est vacciné, quoi.
Je suis là parce que j'ai connu Emmaüs Connect et parce qu'il me manque un petit peu des étapes de connaître la technologie de connexion, de formation, parce que ce n'est pas facile pour connaître tout.
Quel problème est-ce que vous avez rencontré ?
Malheureusement, moi je travaille bientôt 30 ans à ID Formation et malheureusement, j'arrive pas bien à utiliser l'ordinateur. Et il faut compter sur soi-même. Alors moi, j'aime bien compter sur moi-même et c'est grâce à ici, après j'ai renseigné, je suis venue ici. Depuis que je suis venue ici, c'est la porte de paradis. Tous mes problèmes, ils sont résolus. Tout. Parce que ici, j'ai appris beaucoup de choses. Vous imaginez, beaucoup de choses. Qu'est-ce que moi j'ai besoin ? C'est la clé de ma vie. Et grâce à ici, que je puisse apprendre beaucoup de choses.
Quelles sont les principales difficultés que vous aviez rencontrées ?
Les difficultés d'avant, je sais pas fonctionner les bases. Les bases, je ne connais pas, je sais pas. C'est un petit peu difficile, j'arrive pas à mettre les choses bien en place quand je touche l'ordinateur. Et ça veut dire quand on envoie un mail, quand il y a des mots de passe, la tablature, il y a beaucoup de choses dans le bureau, dans la connexion. Mais ici, grâce à ici, j'ai tout appris. Quand je t'ai dit, je suis heureuse, je suis très, 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 très contente. Vous imaginez, c'est un porte parce que je suis contente, parce que j'avance. Vous imaginez des papiers de sécurité sociale, des papiers pour envoyer le mail, des papiers pour scanner. C'est tout maintenant. Et grâce à ici, un bénévole, ils sont très sympas tous, qui m'aident. Et franchement, maintenant, je vois que j'avance et je suis heureuse. Et je remercie énormément l'équipe de bénévoles et surtout Emmaüs Connect. Grâce à ici, que je puisse bien voir ma vie correctement.
Philippe, ancien développeur web et bénévole à Emmaüs Connect.
L'inclusivité numérique, c'est mon truc, quoi. C'est pour ça que je suis là et aider les gens à se connecter, etc. C'est mon dada.
En quoi consistent vos tâches ?
Alors, on a plusieurs tâches. On a les permanences connectées, où on accueille les gens pendant une session d'une heure et demie à les accompagner sur une problématique qu'ils ont, qu'ils rencontrent, etc. Ou alors juste à les accompagner, à se former sur les outils, que ce soit sur les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Donc, on les accompagne à apprendre sur ces outils-là.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez repérées ?
Difficulté des utilisateurs ou... Alors, en général, c'est vrai que les gens arrivent ici avec aucune connaissance. Et c'est vrai que quand on arrive sur un outil où on ne sait pas filtrer l'importance des informations, il y a beaucoup de choses sur les écrans. On ne sait pas si quelque chose est plus important que l'autre, etc. On a peur de faire l'erreur. Et je répète souvent aux bénéficiaires que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et que... on est là pour les accompagner et que si vraiment ils font une erreur qui est gravissime, on est là derrière pour vraiment rectifier le tir. Et donc on laisse faire et on accompagne. Et ça se passe très bien, les gens apprennent.
Ensuite, il faut lever les appréhensions, surtout.
Oui, les appréhensions, ouais. C'est vrai que les gens ont peur de l'outil numérique, qu'ils ont peur de faire une bêtise et qu'ils vont tout casser, etc. C'est vrai qu'on est là, on crée d'abord un lien social, on les met à l'aise. Et ça permet d'être décontracté face à un outil qui peut faire peur, quoi.
Et après, il faut beaucoup de pédagogie.
Oui, c'est vrai que les bénévoles ici ont tous beaucoup d'empathie, de patience aussi. Quand personnellement, j'accompagne juste ma mère à faire des tâches sur son ordinateur, je suis peut-être un peu moins patient, etc. Mais ici, la démarche n'est pas du tout la même et... Ouais, c'est très safe, enfin, c'est très c'est un endroit vraiment sûr et c'est cool, quoi.
Qu'est-ce que les bénéficiaires vous disent en majorité ?
Alors, ça met du baume au cœur. C'est quand, par exemple, après une séance de permanence connectée, les bénéficiaires ressortent d'ici avec le sourire qu'ils ont réussi à accomplir la problématique avec laquelle ils arrivaient et que juste ils nous regardent et ils nous demandent si la semaine prochaine on est là, si à la prochaine séance de permanence connectée on est là. Ça met un baume au cœur fou et c'est très gratifiant.
Aujourd'hui, on sait que pour toutes les démarches administratives, on passe par l'informatique, on passe par le numérique.
Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de formats papier. Bon, c'est bien pour l'écologie, etc. Mais pour des personnes qui sont déconnectées du monde numérique, c'est une vraie problématique qu'on essaye de régler ici au quotidien. Et c'est passionnant, quoi, d'essayer de faire en sorte que ces gens acquérissent une autonomie numérique. Donc, il y a beaucoup à faire. Et en même temps, on est là pour ça et on est très content de le faire.
Et ça leur permet aussi d'accéder à leurs droits.
Oui, exactement. Par exemple, j'ai aidé, dès ma première séance en tant que bénévole ici, j'ai aidé des personnes à faire des démarches administratives pour leur titre de séjour en France, etc. Quand des personnes déjà ont du mal avec l'outil numérique et en plus avec la langue française, ça ressemble à une tâche vraiment impossible. Donc ça permet à beaucoup de gens aussi de découvrir qu'ils ont droit à beaucoup plus et de s'asseoir, de vraiment bénéficier de tout ce à quoi ils ont droit.
Nous étions à la journée porte ouverte de l'espace solidarité numérique de Emmaüs Connect Roubaix. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM. Pourquoi vous priver des programmes éclectiques, variés, vivants, branchés sur la réalité sociale, politique et culturelle d'une des rares radios libres et non commerciales existantes encore en France? Faites votre choix sur le 106,6 et il n'est pas possible que vous n'y trouviez pas de quoi satisfaire vos oreilles et éventuellement les nettoyer de ce que l'on tente d'y faire entrer sournoisement et à votre plus grand détriment. Auditeurs de Radio Campus de tous horizons, unissez-vous.
Tous les soirs après le JT, je m'installe sur le canapé, ça y est, je suis prêt à zapper pour me retrouver sur Arte, pour essayer d'oublier une journée trop banale. Je n'allais quand même pas me prendre un abonnement à Canal. Soirée sur Arte, il faut s'y préparer, toujours bien à l'avance, tout organisé. Ne jamais oublier qu'il n'y a pas de publicité, jamais un seul moment pour préparer son thé. Les soirées thématiques sur la culture asiatique, les reportages en noir et blanc, sous-titrés en allemand. Quelques vieilles images sur l'art du Moyen-Âge, économie autrichienne au sein de l'Union Européenne. Les soirées un moment à ne pas louper, un petit havre de paix, un moment privilégié, on oublie TF1, la météo de Laurent Meschko, les jeunes chanteurs laissés là dans un château. Bercer sur Arte. Après avoir zappé sur les chaînes non câblées, on se demande souvent ce qu'il y a sur Arte. Sort de dernière chance pour une soirée télé, une dernière chance pour une chaîne oubliée. Il ne faut quand même pas totalement exagérer. Bien sûr que dans d'autres soirées, je me suis déjà mieux éclaté. Quand je me fais inviter au resto, au ciné, je ne vais tout de même pas rester seul devant Arte. Les soirées thématiques sur la bière en Belgique, des reportages fascinants sur les cinq continents. Quelques vieilles images sur l'histoire des barrages, la suprématie stalinienne au cœur de l'histoire européenne. Les soirées, c'est un moment à ne pas louper, un petit havre de paix, un moment privilégié, on oublie TF1, les commentaires de Jean-Michel Larquet et toutes les soirées spéciales bêtisiers.